à quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs, et surtout de rencontres autour de l'actualité. Un grand événement se prépare, c'est le Festival des Arts à l'école pour la première fois, et ça se passe juste à côté de Poitiers, c'est au Futuroscope, là début avril. On va en parler en seconde partie d'émission, mais tout d'abord on accueille Stéphane Alouche qui est adjoint au personnel et au dialogue social pour la ville de Poitiers. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous pour parler de ces décisions que vous avez prises d'étendre le congé parental pour accueil de l'enfant et de créer un congé menstruel. Alors d'abord, peut-être remettre un petit peu le contexte. Comment vous aviez délibéré sur ces questions-là? C'était en décembre 2024.
Oui, en décembre 2024, nous avons choisi de porter des délibérations aussi bien à Poitiers, à la ville de Poitiers, mais aussi à Grand Poitiers et au CCAS de Poitiers pour à la fois créer un congé menstruel, alors dit menstruel, mais qui en fait s'appelle aussi congé ou autorisation spéciale d'absence pour règles douloureuses, incapacitantes ou endométriose. Et puis nous avions aussi choisi d'étendre le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Donc si on prend le congé menstruel au départ, donc ce qu'on a prévu, c'est 1 à 2 jours de congé sur présentation d'un certificat médical par un médecin ou un gynécologue ou une sage-femme. Et donc en toute confidentialité, donc c'est vraiment quelque chose qui avait vocation à faire avancer les droits des femmes. Donc ça, c'est pour ce volet-là. Et puis sur le congé paternité, extension du congé de paternité, réglementairement aujourd'hui, c'est 4 semaines qui étaient prévues. Et là, on passait à 10 semaines. Et ce qui était génial, c'est que l'ensemble des organisations syndicales nous ont soutenus dans cette démarche. Un vote à l'unanimité. Et ensuite, en conseil municipal, là aussi, un vote très largement unanime sur ces trois collectivités.
Et pourquoi Poitiers, Grand Poitiers et le Centre communal d'action sociale ont pris cette décision alors qu'il y a en fait un vide juridique, ou en tout cas ça n'existe pas au niveau national?
On a considéré dans le cadre de notre plan d'action égalité entre les femmes et les hommes qu'il était nécessaire de faire avancer ces droits, qu'aujourd'hui, si on voulait parler d'égalité entre les femmes et les hommes, il était important qu'elle puisse se faire dans le cadre des conditions de travail, qui est une vraie égalité face à l'emploi. Donc on a travaillé sur plein de choses à côté, sur les égalités salariales, mais on a considéré qu'il était important, si on parle du congé menstruel, que les femmes et les hommes se retrouvent à égalité par rapport à leurs conditions de travail, à la manière dont ils pouvaient se retrouver, être en situation vraiment de faire face à leur emploi. Et on a considéré qu'il était important d'avancer en ce sens.
Alors, la préfecture de la Vienne demande l'annulation de cette mesure. Alors, elle dit qu'elle ne porte pas de jugement de valeur sur la mesure, mais elle s'en réfère à l'application de la loi sur ces fameuses autorisations spéciales d'absence. Et là, normalement, on peut les accorder que dans le cadre de ce qui est autorisé par le législateur. Quelle est votre réaction face à cette demande d'annulation?
La préfecture de la Vienne agit au titre du contrôle de légalité. C'est vrai qu'il y a un vide juridique, voire un flou juridique, et qu'il y a besoin vraiment d'éclairer tout ça. Aujourd'hui, ce qui nous est dit, c'est que les autorisations discrétionnaires d'absence que l'on peut accorder concernent soit la parentalité, soit les événements familiaux, mais qu'on ne peut pas aller au-delà. Néanmoins, on a pu entendre au niveau national, notamment Aurore Berger, ministre, que c'était un sujet qui devrait avancer. Et donc, pour nous, il était important de nous engager dans la démarche, de faire partie des premières collectivités engagées dans la démarche pour faire avancer le droit. Et donc, on persiste, mais la réaction de la préfecture n'est pas anormale. Elle est dans une approche légaliste.
Donc, c'était il y a un mois, cette réaction de la préfecture. Et pourtant, vous avez décidé de maintenir ces délibérations. Voilà, comment vous expliquez ce choix ?
Alors, on n'est pas les seules collectivités à prendre cette décision. Il y a un certain nombre de collectivités qui s'étaient déjà engagées dans la démarche avant nous et pour lesquelles, à l'époque, le contrôle de légalité ne s'était pas positionné. Et donc, ce sont des délibérations qui s'appliquent déjà dans certaines collectivités, comme par exemple en région Nouvelle-Aquitaine.
Quelles sont les collectivités où ça fonctionne déjà ? Oui, toute la région.
La région
en elle-même,
fait,
ils avaient appliqué l'année dernière.
Conseil régional. Et puis, il y a d'autres collectivités, d'autres grandes villes ou plus petites villes qui se sont engagées dans la démarche et qui aujourd'hui ne souhaitent pas reculer parce que on est tous concentrés sur l'objectif qui est qu'à la fin, ce congé menstruel puisse être adopté.
Et alors, en quoi les collectivités locales, justement, auraient un rôle à jouer ? Est-ce que ce n'est pas plutôt de l'ordre des députés, des sénateurs de jouer ce rôle-là ?
Alors, moi, je suis aussi membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui est l'entité qui étudie les différents décrets qui peuvent être préparés par le gouvernement. Nous rencontrons régulièrement les ministres et donc nous pouvons aussi leur être les porte-parole en tant qu'employeur public de cette volonté. Et ensuite, nous agissons aussi avec nos collègues parlementaires, députés, sénateurs, pour que l'ensemble des élus agissent dans le même sens pour faire évoluer et aboutir ce choix.
Et donc la préfecture peut aller jusqu'à saisir la justice administrative. Dans ces cas-là, quels seraient les arguments que vous compteriez avancer ? Parce qu'effectivement, légalement, ça ne rentre pas dans le cadre.
Alors, il y a déjà eu quelques jurisprudences, puisque le tribunal de Toulouse s'est exprimé, mais aussi le tribunal de Grenoble. Et il y a différents arguments qui n'avaient pas été relevés. Par exemple, si on prend l'argument relatif à la loi sur les 1607 heures, où on nous disait si vous décidiez d'accorder d'autres autorisations spéciales d'absence, vous allez déroger à une loi. Et ça, c'est pas possible. Là, par exemple, le tribunal de Grenoble, dans son ordonnance en référé, a indiqué que cet argument n'est pas recevable. Et à la limite, concernant le congé paternité, extension du congé paternité, il serait quasiment possible de le rattacher à la parentalité, aux autorisations discrétionnaires possibles, et auquel cas vous pourriez le faire vraisemblablement juste par décision de l'autorité territoriale, donc maire, présidente, et vous n'auriez pas besoin d'une délibération. Donc ça montre que sur ce volet-là, par exemple, il y a quand même un léger flou qui mérite d'être éclairé.
Oui, c'est pour ça que ces deux congés, ces deux autorisations d'absence n'ont pas le même statut tout à fait vis-à-vis de la loi et peut-être que le congé qu'on appelle menstruel est peut-être plus difficile à défendre aujourd'hui, je veux dire.
Aujourd'hui, par rapport à ce vide juridique, en toute rigueur juridique, effectivement, on sent bien que la délibération est fragile. Néanmoins, on a bon espoir que la société soit tout à fait prête désormais à légiférer pour que ça devienne totalement légal.
Et vous parliez justement de la ministre chargée de l'égalité, Aurore Berger. Elle a exprimé son souhait de voir le congé menstruel avancer. Donc peut-être vous pensez collaborer avec le gouvernement pour faire évoluer la législation ?
On a tout intérêt sur ce type de dossier à travailler tous ensemble à l'avancée de ces droits. Et bien entendu, nous sommes prêts à travailler avec la ministre et avec toutes les autres collectivités qui souhaitent s'engager.
Vous disiez que tous les syndicats et tous les représentants des personnels étaient favorables à ces mesures. Là, au vu des risques, effectivement, qu'elles soient levées, quel message vous souhaitez peut-être adresser à tous vos agents et agentes ?
Nous ne souhaitons pas reculer, mais nous avons à l'esprit la sauvegarde des intérêts de nos agents. Nous ne voulons pas leur faire courir de risques. Et c'est vrai qu'avec la fragilité juridique qu'il peut y avoir, par exemple, sur la délibération relative au congé menstruel, sachant qu'en fait, on a fait une seule délibération pour ces deux congés. Donc la fragilité de la délibération, si un juge devait s'exprimer et la déclarer illégale, on ne voudrait pas que nos agents à qui ont été accordés des autorisations spéciales d'absence se retrouvent en difficulté. Et donc, dans l'attente de l'évolution du contexte réglementaire, nous préférons suspendre en fait l'application de ces délibérations, vraiment pour ne pas mettre nos agents en difficulté, sachant que, par contre, nous ne souhaitons pas les retirer parce que nous sommes persuadés qu'à l'horizon de quelques mois, tout sera possible.
Donc pour l'instant, on ne peut pas prendre ces congés, même s'ils ont été votés. Vous attendez d'être sûr que ce ne sera pas déclaré illégal par la suite, c'est ça ?
Exactement. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons 14 autorisations spéciales d'absence pour le congé menstruel qui ont été sollicitées et 3 pour l'extension du congé de paternité.
Sur combien d'agents et agentes peut peut-être faire le ratio ?
3600 agents, donc ça touche une petite population pour l'instant.
C'est bien de le repréciser quand même. Merci beaucoup Stéphane Hadouche, donc adjoint au personnel et au dialogue social pour la ville de Poitiers, d'être venu nous parler de ces décisions qui essayent de faire avancer le droit pour les parents et pour les femmes. Et donc, on attend la suite au niveau juridique, effectivement. Merci bien. Merci. On continue en musique avec ce duo Hippocampe Fou et Lily avec ce titre T'as pas la ref.
Je sais pas comment tu vis sans Twitch, c'est triste comme tes sandwichs. Sur TikTok, t'es cringe, papa, crois-moi, je te le dis, je m'en fiche. Ta vie, c'est un thread d'horreur, j'avoue. J'aurais préféré un featuring avec Natsu. Ris pas, je parle du Shiba, il est plus suivi que toi, bref. T'es bon sur scène, mais dans les petites salles. On ne voit jamais dans les festivals. Je connais aucune star dans le game. J'attends toujours mon autographe d'Angèle. D'ailleurs, c'est pas toi le meilleur, t'es qu'un mauvais player. Quand tu fumes, t'as les yeux rouges comme Muzan. Obligé d'appeler les piliers de Demon Slayer. T'as pas la ref. Au collège, personne te connaît. À part mon prof d'histoire, fan de poney.
Ouais, il est gentil.
Il a 60 ans, il est malentendant. Il habite seul avec sa mère dans la forêt. N'aie pas le seum, fais pas le jeune. Arrête avec tes mots d'ado. Polos. T'es grave chum. Et fat gum, dis-moi, où sont passés tes abdos
bah.
T'as pas de blink, t'as pas d'army.
Hein?
Tes seuls fans, c'est des mamies.
Non.
Personne vient voir tes chorégraphies, moisi, même pas tes amis. Papa, j'espère que tu m'en veux pas.
Okay.
Devant tes clips, je rigole pas. Tais-toi, laisse-moi regarder Joyka. T'as pas la ref.
Bien vu le tacle, mais je l'évite comme Olivier Tom. J'arrive broliqué comme Shaft, John McClane, Cobra, Jack Slater ou Nicky Larson.
Je connais.
Tu joues les vols qui rient, mais t'es pas de taille face à mon artillerie. Et toutes les phrases qui riment dans mon joli cahier Waikiki. Ouh ah, boum, bidi bye bye.
Tranquille.
Tu chailles, tu te crois dans le coup, c'est cela, oui. Branché comme une Tesla, mais que peux-tu contre une ferraille? Je crois que t'as pas compris, je t'oublie dans les marécages de la mélancolie. En compagnie d'Artax. Hey, petit Tamagotchi, tu veux que je te nourrisse? Contacte-moi par fax.
Hein?
Sache qu'un tas de personnages que tu trouves illustres seront oubliés comme Brandon Brenda Cortex Minus. Il gueule ou Ptigus. T'as le même style que tes copines, t'as le baggy, t'as le legging et le pas def. T'as peur de pas trouver ta place, tu te fonds dans la masse. Pourquoi tu fais la chef? Je te file une pièce de 5 francs, une chignole, un bout de ruban. C'est pas insultant? C'est le kit intégral pour fabriquer ta médaille d'argent.
Tu
communiques dans le skeu muskin, mais où est le respect, hein?
Wesh.
T'as plus la tête sur les épaules normales, il ne peut en rester qu'un.
T'es éclaté, franchement, comme tes playlists.
Ouais, mais 75% de ce qu'il y a dans tes playlists, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Tous les Disney déjà, quand t'étais petite. Doja Cat, Ice Spice, Central Cee.
Ouais, Hippo, il apparaît pas dans mes playlists en tout cas.
On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais t'as pas la ref. On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais t'as pas la ref.
Une puissance de professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
C'est toi en plus.
Mathias Charton, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'éducation musicale et chant choral est avec nous pour une grande première, le Festival des Arts à l'école qui aura lieu donc au Futuroscope la semaine prochaine. Alors, comment est née cette idée un peu folle, je dirais, de ce grand festival ?
Merci beaucoup, oui. Alors, cette idée est née il y a 3 ans de cela, à l'issue des confinements successifs que nous avions vécu. les pratiques artistiques scolaires s'étaient retrouvées interdites pour des raisons sanitaires, bien sûr. Et on sentait bien la nécessité de réimpulser une dynamique pour remettre nos élèves à la scène et leur permettre de revivre ces moments qui les construisent, qui les habitent, qui les permettent d'incarner un développement d'estime d'eux-mêmes. Et donc, pour ces raisons-là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas lancer un grand rassemblement de cette vivacité de notre jeunesse. Et donc, cette idée est née à ce moment-là. Et depuis 3 ans, on essaye de travailler sur le sujet qui va donc aboutir la semaine prochaine.
Et pourquoi avoir choisi le Futuroscope pour cette première édition ?
Alors, pour plein de raisons aussi. D'une part, dans sa dimension d'espace scénique, puisque nous allons avoir plus de 60 spectacles sur 3 jours qui vont être proposés. Donc, il faut pouvoir avoir des espaces scéniques qui puissent accueillir ces différents spectacles en même temps. La capacité hôtelière du lieu aussi, qui nous permet d'héberger les 4000 jeunes qui viennent de toute la France pour participer à ce projet, en plus des jeunes qui viennent de notre territoire. Pour des raisons aussi de l'environnement local qui a motivé ces jeunes à venir en France, puisque ça parle à tout le monde. Et donc, ça a été aussi pour nous un vrai levier de réussite pour mobiliser les professeurs de tout le pays. Et puis aussi, parce qu'on a le Palais des Congrès sur lequel aussi on va produire des spectacles. Donc, c'est l'environnement qui est très favorable à cette aventure.
Ça, c'est quelques 6000 participants, 200 artistes professionnels. Ça semble être une ampleur assez considérable. Comment vous avez géré l'organisation logistique d'un tel projet ? Ça fait 3 ans que vous travaillez dessus, vous disiez ?
Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus avec l'ensemble des partenaires, puisque nous sommes plusieurs. Et c'est un consortium d'acteurs spécialisés dans l'éducation artistique et culturelle. Donc, tous ces collègues se sont mobilisés avec leurs équipes. L'équipe de l'Académie de Poitiers du rectorat de Poitiers est très engagé avec les professeurs d'éducation musicale, les inspecteurs, les bureaux, les différents services qui travaillent autour du projet. Et puis nous avons aussi comme support la Fédération nationale des chorales scolaires qui représente 300 000 élèves en France qui soutient ce dispositif en termes d'organisation et de avec tous les bénévoles qui se sont agrégés aussi tout au long de ces derniers mois.
Et justement, quels sont un peu les objectifs pédagogiques, les objectifs artistiques que vous vous êtes fixés avec un festival comme celui-ci ?
Alors, il y a les objectifs artistiques, effectivement. C'est de mettre à la scène les élèves et qu'ils rencontrent un environnement de pratique professionnelle, donc des salles qui sont prévues à cet effet, des techniciens professionnels, des régisseurs, des musiciens professionnels et des artistes de renom qui viennent participer et donner leur voix et leur talent à ces spectacles conçus, donc à la croisée des chemins entre le spectacle scolaire et le grand spectacle. Et puis nous avons également aussi comme enjeu la dimension éducative qui se joue derrière, puisque un jeune qui pratique une activité artistique de façon hebdomadaire va développer énormément de compétences et de qualités intrinsèques en développant à travers le développement de l'estime de soi, va développer ses capacités de mémorisation par exemple, donc il va retenir 21% de choses de plus qu'un élève qui ne fait pas de pratique artistique. Il va également améliorer ses résultats scolaires, puisque quand on se sent mieux dans sa peau, quand on retient mieux, eh bien, les résultats scolaires sont près de 3 points de moyenne entre un élève qui réalise des pratiques artistiques et un autre qui n'en fait pas. Il développe aussi des compétences psychomotriciennes, il développe des compétences affectives, des sentiments de groupe aussi et de respect d'autrui, avec un développement de son sentiment de citoyenneté qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus engagé. Pour vous donner peut-être un chiffre, un enfant qui va chanter dans une chorale ou qui va monter à la scène au théâtre ou jouer d'un instrument, il y a 97% de probabilité que par la suite il aille voter là où le restant de la population vote, on le sait, chaque année sur des chiffres beaucoup moins importants que celui-ci.
Donc effectivement, beaucoup d'avantages à toutes ces pratiques. Et alors, vous parliez du chant choral, ça va être à l'honneur à la cérémonie d'ouverture, 5000 choristes. Comment vous avez préparé cet événement ? Qui sont-ils ? Comment ça va se passer ?
Alors, ce sont les élèves participants qui viennent de toute la France, qui vont se retrouver dans l'amphithéâtre extérieur du parc. Ils vont chanter l'hymne du festival qui a été composé par Gérald de Villain, l'hymne français et puis l'hymne européen pour montrer la dimension de la fraternité. Le tout accompagné par par la fanfare de la 9e BIMA qu'on connaît bien ici sur notre territoire, donc on est très heureux de leur présence également. Et ce sont des élèves du lycée Victor Hugo qui vont présenter, puisqu'on met en avant aussi toute notre jeunesse dans les différents métiers qu'ils développent au sein de leur scolarité. Donc on a aussi les élèves du lycée Kyoto sur la partie restauration, on a les élèves de l'accueil du lycée du Dolmen ici à Poitiers, et puis Thomas Jeanmain à Niort. Tous ces jeunes ont travaillé depuis le mois de septembre ces différents chants, vont se retrouver et puis vont chanter tous ensemble ces trois chants. Et cette cérémonie d'ouverture précède un grand atelier du monde animé par Paul Smith, qui est le plus grand chef de chœur européen aujourd'hui, donc qui est anglais, et qui va transmettre trois chansons internationales sur le thème de l'amitié et de la fraternité dans cette cérémonie d'ouverture.
C'est ça, il y aura beaucoup de diversité en termes artistiques durant ces trois jours. Il y aura aussi des artistes professionnels qui participeront au festival, Ibrahim Maalouf, Mademoiselle K, par exemple. Comment vous les avez sélectionnés d'ailleurs, ces artistes ?
Alors, par les connaissances que nous avions, donc on leur a proposé, lorsqu'on a imaginé le projet, de se joindre à nous et de dire, mais écoutez, est-ce que vous avez envie de participer à cette aventure ? Est-ce que vous avez envie de chanter avec les enfants ? Est-ce que vous avez envie de faire chanter les enfants ? Et ils ont tout de suite dit oui pour participer à cela. Et puis comme on a comme partenaire aussi les Francofolies de La Rochelle, ils nous ont aussi permis d'accueillir trois artistes des chantiers qu'ils accompagnent chaque année. Nous avons la chance de les recevoir et que nos jeunes puissent découvrir ces spectacles, ces métiers, aussi à travers leur production.
Comment va se passer la semaine, enfin ces trois jours, il y a de la chorale, de la danse, du théâtre, du cirque, comment ça va s'articuler tout ça ?
Alors le matin, tous les jeunes et le public, puisque c'est aussi ouvert aux adultes qui souhaitent venir écouter, voir les représentations, ce sont des matins des ateliers de pratique. Donc ils sont sur des ateliers de théâtre, de fabrication d'instruments, sur des essais d'instruments, sur des ateliers de danse aussi par exemple. Donc c'est aussi ouvert au grand public, dans les enceintes du parc et du palais des congrès. L'après-midi, ils sont soit en spectacle, soit en répétition pour préparer leur spectacle. Puisqu'on a des spectacles qui réunissent parfois 400 jeunes qui ont travaillé eux aussi dans toute la France et donc ils ne sont jamais vus jusqu'à présent. Ils vont répéter pendant deux jours et puis ensuite se produire le troisième jour. Et le soir, il y a donc ces grands rassemblements aussi de spectacles où ils vont se donner sur scène, soit sur de la danse, soit sur du théâtre, soit sur du cirque, soit sur des instruments ou du chant.
Donc au Futuroscope et au Palais des Congrès, vous aviez reçu des milliers de candidatures, il y avait 5000 places je crois. Comment on explique que ça marche aussi bien pour une première ?
Alors on était les premiers surpris. En l'espace de 15 jours, nous avions plus de 8000 élèves potentiels pour nous rejoindre l'an dernier. Je pense que ça répondait à un besoin aussi, à une envie de se retrouver. On a ces grands rassemblements qui existent en Europe, mais en France on n'avait jamais pu monter un projet de cette nature. Alors après 3 ans de travail, on comprend pourquoi, mais on est content de pouvoir concrétiser cette idée. Oui, en fait, c'est parce que les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de se rencontrer. La période, d'autant plus anxiogène, fait que de voir des jeunes sourire, s'enthousiasmer pour un projet commun, ça fait du bien et je pense que les professeurs avaient envie de faire vivre cela à leurs enfants, à leurs élèves.
Vous disiez ça existe ailleurs en Europe, ça vous a inspiré peut-être pour créer ce festival ?
Oui, tout à fait. Dans nos pratiques précédentes ou dans nos vies précédentes, on a participé à ces grands rassemblements dans le nord de l'Europe. En Suède, par exemple, où 4000, 5000 jeunes qui se retrouvent pour vivre ensemble pendant 3 jours, c'est juste des moments extraordinaires. Et l'idée, c'était de donner à nos jeunes la possibilité de vivre cette expérience qui construit une vie, parfois, et qui donne justement une relation aux autres bien plus apaisée et un rapport à la confiance aux autres qui est très important pour nous.
Et alors, quel est l'avenir du festival maintenant qu'on y est, hein, c'est la semaine prochaine. Est-ce que vous envisagez d'en faire un événement annuel, biannuel, je ne sais pas ?
Alors, on envisage effectivement, alors ça va bien se passer, on est très contents. En tout cas, sur le papier, tout fonctionne à merveille. Donc la réalité, on l'espère, nous donnera raison. Et on espère pouvoir redonner ce projet tous les 2 ans, puisqu'il faut une année sans doute pour déjà digérer cette première aventure, et puis de reconstruire ensuite celle d'après, puisque nous sommes forts aujourd'hui de cette ingénierie de construction d'événementiel aussi. Et donc nous espérons pouvoir renouveler cette expérience dans 2 ans.
Donc c'est du 2 au 4 avril, c'est ouvert à tous. Comment on fait pour y participer? Il y a plein de concerts et de spectacles.
Eh bien, il suffit de se rendre sur le site du festival, donc www.fe-dae.fr, donc FEDAE, Festival des Arts à l'École. Et donc la billetterie est en ligne, est disponible, et toute la programmation des 60 spectacles avec les 200 artistes professionnels et les 5400 jeunes talents sont à votre disposition.
Donc artistes reconnus, moins connus et artistes totalement amateurs. Voilà, tout le monde se mélange du 2 au 4 avril au Futuroscope et au Palais des Congrès. Merci
Exactement.
Beaucoup.
Exactement, merci à vous.
Donc Mathias Charton, je rappelle que vous êtes inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional d'éducation musicale et chant choral. Merci d'être venu dans Séquence Midi.
Merci.
Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Avec un rendez-vous à Buxerolles, on en parlait dans Séquence Midi, c'est le pacte du pouvoir de vivre qui vous invite à une journée, enfin une après-midi et une soirée de rencontres sur les questions de la démocratie. Donc 14h, 17h, atelier de réflexion, 17h, il y a un pot convivial, et 18h à 20h30, une table ronde. Donc sur toutes ces questions de est-ce qu'on a une démocratie vivante, comment on est porte-parole de la société civile, comment on peut être acteur de la transformation et de l'amélioration de la société, c'est pour tout le monde et notamment tous les acteurs associatifs, les syndicats, les forces de la société civile. Le Conservatoire vous propose son festival primal à Musica avec une saison de concerts professionnels. Et aujourd'hui, c'est Poussière d'étoiles, un voyage musical interstellaire en quintette à vent. C'est à 20h30, donc avec un quintette, Amblin Chalea au hautbois, Géraldine Thébault à la flûte traversière, Cécile Jolin au basson, Louis Verchère au cor et Marion Dreyer à la clarinette. Concert BD Algues Vertes en duo, c'est ce soir à la Maison des étudiants. Donc concert BD sur le travail donc de la BD Algues Vertes et donc le travail d'Inès Léraud. Et donc ce sera en concert, c'est un moment à ne pas rater à la Maison des étudiants ce soir. Et puis on termine avec l'IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault qui organise la 3e édition de son forum d'alternance. C'est cet après-midi de 14h à 16h au sein de l'IUT pour réunir des étudiants, des entreprises autour d'une ambition commune, promouvoir l'apprentissage et l'alternance comme levier de formation et d'insertion professionnelle. Sur Pulsar à 17h, c'est le Zoom, 18h, le Labo des Savoirs, 19h, Change Doers et 20h, Metal Fury. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Cyclone. Auriez-vous envisagé voir fusionner ces deux termes, cyber et shabby, un jour? L'un donc avec cybernétique et punk, et l'autre, c'est un genre musical né en Algérie qui signifie populaire. Voilà, c'est difficile de trouver des liens peut-être entre ces deux mondes, mais c'est pourtant ce que propose Cyclone. Voici ce titre, Mutation. My mutation is your creation.